colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jean-Claude Margueron, je suis directeur d'études, enfin j'étais directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je suis archéologue de terrain, j'ai travaillé pendant toute ma vie en Syrie, sur différents sites, dont le site de Marie. Et maintenant, je réfléchis à ce que j'ai fait. Merci. Et merci de m'avoir donné cette occasion de réfléchir selon une certaine direction qui n'était pas forcément la mienne au départ dans toutes les questions qui concernent la Mésopotamie et qui concernent les forces profondes de la Mésopotamie. Ça m'a beaucoup intéressé de m'orienter un peu dans une nouvelle voie à essayer de réfléchir. Alors, je vous présenterai deux temps. D'une part, une approche évidemment très rapide du milieu physique en montrant les facilités et les obstacles. Je ne prétends pas avoir trouvé des choses dans cette analyse. Le milieu physique, c'est une approche que l'on doit faire toujours quand on fait de l'histoire. Géographie et histoire se combinent toujours de façon permanente et il faut savoir les faire jouer les uns avec les autres. Et en deuxième temps, je voudrais vous parler des hommes dans ce milieu, avec deux questions. Pourquoi la guerre, puisque c'est le thème fondamental de cette approche. Et dans le cas particulier de la Mésopotamie, comment est-on passé de la cité à l'empire? Car ce qui est évidemment tout à fait significatif, c'est que le domaine de la Mésopotamie est célèbre pour ses grands empires, dont on dit que ce sont les premiers de l'histoire. Alors vous avez toute une thématique qu'on pourrait développer, sur laquelle je ne vais pas m'apesantir. Prestige de Babylone, Hammurabi, Nabucodonosor, on ne connaît rien sur la Mésopotamie, mais le nom de Hammurabi et celui de Nabucodonosor, ça, on sait. Puis alors il y a Ninive et les Assyriens, de nouveau un empire, Sargon, Assurbanipal. Alors forcément, avec cette image très forte qui nous vient de ce qui a été dit, du monde dans lequel on vit, on ne voit la Mésopotamie que comme un monde d'empire. Et forcément, tout va être orienté dans cette direction-là. Alors, quelques questions dans le cadre de ce séminaire. Trois ou quatre pour au moins mettre en évidence les problèmes. Y a-t-il un milieu mésopotamien spécifique qui favorise la formation d'empire? Puisque tout est centré sur les empires, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique en Mésopotamie? Alors, il y a eu quelques petits chahuts dans ma présentation de l'image. Excusez-moi, quand je suis parti de chez moi, c'était bien. Mais quand on change d'ordinateur, ça fait toujours des petits trucs. Si oui, quel est son rapport avec le temps? Ce rapport s'est-il modifié au cours de l'histoire? Ça, c'est une des questions qu'on pourra peut-être essayer de poser. Deuxième point. Y a-t-il une spécificité du milieu du Proche-Orient qui définisse la nature de certaines guerres et qui donne naissance à des formes politiques particulières par la guerre? Quelle est l'origine des empires? Au fond, cette question-là est un petit peu contenue dans les deux précédentes. Et quelles données ont pu favoriser l'éclosion des empires? Donc, je vais essayer de vous entraîner dans cette démarche, dans ce milieu qui est très difficile, je dois dire, à pénétrer. Difficile parce que c'est un temps très long. Tiens, j'ai oublié un S là en passant. Un temps très long de 10 à 15 millénaires. Et ce temps, bien entendu, nous ne le couvrons pas comme historiens. Nous n'avons que 2,5 millénaires de textes. Et il faut toujours, quand on parle de la Mésopotamie, avoir conscience que l'arrivée des textes, c'est une fin de monde. Ce n'est pas le début. Le monde, il a commencé bien avant et s'est forgé et formé bien avant. Alors, je rappelle, sédentarisation, 15e millénaire, village et agriculture très rapidement, naissance des villes au 4e millénaire, c'est ça la grande mutation, la naissance des villes va provoquer un énorme changement. Et comme il y a eu avec la naissance des villes l'apparition de l'écriture, nous nous sommes focalisés en tant qu'historiens sur l'arrivée des textes et par conséquent sur la période finale. En fait, la période à proprement parler historique va du milieu du troisième millénaire à la fin du premier millénaire. C'est là où nous avons des textes, et encore, il y aurait long à dire pour limiter la fiabilité de ces textes. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Donc, focalisation de mon intervention sur l'époque urbaine. Ensuite, focalisation sur le bassin mésopotamien, parce que les difficultés que je viens de vous indiquer sont encore pires pour les voisins, pour l'Iran, pour ces domaines-là. Donc, on va faire une approche qui sera quand même très focalisée. Et il faut savoir que si on parle de la Mésopotamie, c'est que la Mésopotamie, par rapport à ses voisins, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Anatolie, etc., c'est un pays qui a hérité de prismes de populations qui sont arrivées avant. Par exemple, nous sommes au courant de la Mésopotamie par la Bible. Nous sommes au courant de la Mésopotamie par Alexandre. Et les premières découvertes archéologiques avec l'apparition des grandes villes assyriennes et des bas-reliefs, des séries de bas-reliefs trouvées dans les palais, a joué un rôle évidemment énorme pour donner à la Mésopotamie cette importance dans l'esprit des historiens. Alors, moi, je vais dire, il y a quand même une réelle difficulté à définir la nature de l'univers mésopotamien, parce que nous sommes trop focalisés au travers de ces prismes. La Bible, c'est un texte d'origine religieuse pour des raisons diverses, je ne vais pas insister. Alexandre, c'est une grande épopée, et Alexandre a voulu faire de Babylone la nouvelle capitale de l'Empire qu'il montait, ce qu'on oublie parfois. Mais il voulait reprendre la Babylone, donc il a donné une importance à Babylone tout à fait extrême, et puis, encore une fois, les premières découvertes. Ce qui me frappe, c'est que quand on parle du Proche-Orient, quand on parle de la Mésopotamie, les gens répondent Babylone. Et c'est la même chose, je m'excuse de le dire avec une certaine brutalité, c'est la même chose chez les historiens et chez les spécialistes du Proche-Orient. On répond Babylone. On ne se demande pas s'il y a autre chose, s'il faut un peu réorienter, ou en tout cas voir avec un œil différent le monde du Proche-Orient. Donc je vais essayer de vous entraîner dans tout ça. Et en posant la question, trois questions qui vont apparaître, qui sont simplement des questions très ponctuelles peut-être en apparence, mais qui nous permettent de saisir le monde du Proche-Orient sur des problèmes fondamentaux. Trois exemples. Le premier, le terme de cité-État. À l'heure actuelle, les spécialistes du Proche-Orient vous disent qu'au moment de la naissance des villes, 4e et 3e millénaire, le Proche-Orient est un monde de cité-État. Alors, ça désigne les villes du 3e millénaire. Je demande sur quelle base ? L'archéologie ? Je mets au défi quelqu'un de me dire que l'archéologie va me dire que c'est une cité-État. Ce sont des institutions. On ne les voit pas dans le tissu urbain que nous déchiffrons. Il n'y a pas de texte. Alors, deuxième question sur laquelle je reviendrai plus tard. C'est une formule unique sur une durée de plus d'un millier d'années. 1000 ans d'histoire et de fonctionnement. Nous n'avons pas l'histoire, d'accord, mais il y a 1000 ans d'institutions. Est-ce que vraiment cette notion de cité-État est depuis la fondation jusqu'au moment où arrivent des textes plus tardifs sur ces questions. Deuxième thème, que j'évoquerai très rapidement, hein, je ne pensais pas que je vais m'accrocher simplement à ça. L'Empire Agadéen, qui est un empire qui s'est bâti au milieu du troisième millénaire. On le traite partout, vous pourrez voir dans tous les ouvrages, de premier empire mésopotamien. Moi, je me demande comment est-ce qu'on ose dire quelque chose comme ça, en l'absence de texte sur la période précédente. L'empire n'est pas un phénomène lié à l'écriture. Il y a des formations d'empire qui se font par des forces armées et des systèmes de relations internes dans ces territoires dominés, qui ne sont pas liés uniquement aux textes. Alors évidemment, on aimerait bien les avoir, les textes, pour ces périodes-là, mais on ne les a pas. Alors, est-ce que vraiment, On peut penser que l'empire agadéen, dans le système mésopotamien, dans son milieu physique et dans ses forces profondes, c'est le premier empire agadéen. Personnellement, vous comprendrez que j'ai des doutes, hein, rien que par le fait que je pose la question, parce que je pense qu'il y a des forces plus profondes que celles que peuvent nous apporter, dans ces cas-là, les renseignements des textes. Troisième référence, comme je viens de vous le dire, Babylone, qui est une référence à tout le système de pensée. Or, la cité de Babylone a été fondée sans doute au début du troisième tiers du troisième millénaire, c'est-à-dire au moment d'ailleurs où l'écriture devient un peu plus importante. Elle apparaît avec des textes, sur des textes, uniquement au début du deuxième millénaire. Alors, faire de Babylone le centre de la Mésopotamie, c'est quand même quelque chose. Moi, je connais des collègues qui n'hésitent pas à dire que toutes les institutions de Marie et que tout ce qui se passe à Marie est lié à ce monde de Babylone. Or, Babylone, ce que nous connaissons beaucoup de choses sur Marie et rien du tout sur la Babylone de la même époque. C'est quand même... Nous n'avons pas de texte, hein, Babylone. C'est quelque chose de fou. Alors, attendons, quand on fait de l'histoire, il faut quand même savoir et évaluer, sous-peser les différentes forces et les sources documentaires, etc. Alors, je ne veux pas donner des leçons, mais je trouve qu'il y a une façon d'agir qui est encore trop liée à la référence mythique et pas du tout à l'histoire elle-même. Je rappelle qu'avant Babylone, je dis bien avant la fondation de Babylone, il y a des cités aussi importantes que Uruk, Marie, Nippur, sur lesquelles nous avons des documents. Et personne ne vient nous dire, Marie, il faut se référer à Babylone. Marie est avant. Marie a développé ses institutions, ses forces avant, dans un contexte qu'il faut considérer comme large et sur lequel nous manquons encore certitude. Donc, il faut bien définir les bases réelles de notre propos. Première approche, le milieu physique, facilité et obstacle. Et bien entendu, avec en arrière-plan, l'idée de quel type de guerre peut être pratiquée dans ce milieu. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce milieu physique, mais je crois qu'il faut quand même bien comprendre que Mésopotamie et le Proche-Orient, c'est un monde qui se décline à partir d'un axe qui est un axe d'écoulement des eaux qui viennent du château d'eau de l'Anatolie et qui se dirige vers le Golfe. Or, c'est une liaison, c'est un isthme qui réunit la partie occidentale et la partie orientale. Un isthme qui est en relation avec deux mers ouvertes, c'est-à-dire la Méditerranée et le Golfe. Troisième mer ouverte du système, la mer Rouge. Au nord, il n'y a que des mers fermées, des mers sans issue sur le monde. Donc, on voit bien que la position même de la vallée de la Mésopotamie, du bassin mésopotamien, est totalement liée à cette morphologie de l'espace et au fait que ce qui va s'y passer, eh bien, ce monde-là est en relation avec l'Ouest et avec le Sud-Est. Et que c'est un trait d'union. Il y a quand même des obstacles. Il ne faut pas croire que c'est très facile de dire c'est un isthme, mais ici, nous avons quand même des montagnes, elles sont franchissables, on a des vallées qui les traversent, et les contacts sont tout à fait possibles. Il y a quand même une difficulté, et ça explique certainement que dans ce domaine-là, la ville est arrivée un peu plus tard que dans le bassin mésopotamien. Deuxième obstacle, à l'extrémité sud-est, l'arrivée sur le golfe, on a une zone qui est une zone de marais. Et la zone de marais existait déjà dans l'Antiquité, plus ou moins, ça dépend des variations du niveau de l'eau, mais elle existait. Et dans ces marais vivaient des populations qui ne faisaient pas réellement partie du monde de la Mésopotamie et contre lesquelles, par exemple, les souverains assyriens ont eu à lutter et de façon très difficile, semble-t-il. Alors, quand on voit cet ensemble, voilà le domaine mésopotamien proprement dit. J'ai recherché à peu près des courbes de niveau qui donnent, c'est pas tout à fait exact, hein, voyons, c'est fait à l'ordinateur, mais ça donne un peu l'idée de ce bassin. Et on a au centre un système qui est composé d'un plateau steppique au nord, d'une plaine alluviale au centre et de marais au sud. Et le tout est entouré de montagnes, une couronne de montagnes, le Zagros, le Taurus, la chaîne côtière, et ici des déserts avec aussi des zones montagneuses. Bon, voici ce que c'est. Mais ce qui importe dans ce monde-là, c'est le réseau hydrographique. C'est le double fleuve. C'est pas un fleuve, c'est deux fleuves avec leur système qui se réunissent à l'extrémité. C'est l'Euphrate et le Tigre. Et la caractéristique fondamentale de ces deux fleuves, c'est qu'ils s'ancrent profondément dans les montagnes du nord ou de l'est, et absolument pas à l'ouest ou au sud. Donc, tout le réseau va accrocher le pays, la plaine, le bassin, aux montagnes du nord. Et c'est là où le réseau va jouer un rôle très important. Qu'est-ce que nous avons au sud? Nous avons un désert. Un désert qui va en s'aggravant, plus on va vers le sud. Et ce désert, bon, on peut le traverser, mais j'y reviendrai. On ne le traverse pas tant qu'il n'y a pas de dromadaire. Et le dromadaire, il arrive quand? Il arrive vers 1000. Donc, ce sont des zones de répulsion pour les hommes de cette époque. Ils n'y vont pas. Et tout ceci est hors de la zone. Oh, ils connaissent, il y a des gens qui passent, mais on n'en voit pas des armées, pour beaucoup de raisons que j'évoquerai un petit peu plus loin. Donc, il y a le désert, il y a les montagnes, il y a la steppe. Ici, la partie septentrionale du bassin, c'est un monde de steppe. Bon, la steppe, ce n'est pas le désert, mais c'est quand même quelque chose qui est aride. Et s'il y a de l'eau, il faut savoir qu'il y en a effectivement à cause de l'inféroflux et de la façon dont l'eau peut se trouver en sous-sol, mais l'eau, elle n'est pas accessible comme ça, elle n'est pas dans des rivières, et si on fait des puits, il faut savoir qu'il faut les faire assez profondément. Alors, un petit détail sur lequel je reviendrai, parce que c'est une chose qui est extrêmement parlante. Certes, cette nappe, cette couche d'eau en profondeur est accessible, de quelques mètres, deux ou trois dizaines de mètres en général, là où on peut essayer de la voir. Mais prenez un exemple, vous avez une caravane d'ânes. Si votre âne chargé voyage toute la journée, il faut lui donner dans la journée 30 à 40 litres d'eau. Sinon, il ne marche pas, il s'arrête. Donc, le problème de l'eau, même dans la steppe, est un problème crucial. Ce n'est pas une question uniquement de désert. Dans le désert, c'est quasiment absolu, on ne peut pas à cette époque-là. Mais la steppe, qui est quand même habitée, n'est pas très facile. Alors, pensez que si vous avez une caravane, il faut donner 30 à 40 litres d'eau par bête le soir. Si vous avez une caravane de 100 âmes, et je signale que les textes un petit peu plus tard nous montrent des caravanes de 1000 âmes, vous voyez la quantité d'eau qu'il faut extraire le soir des puits. Est-ce qu'il y aura assez d'eau dans les puits? Est-ce qu'il y aura assez d'hommes pour les tirer? Ce sont des problèmes quotidiens qui sont des problèmes extrêmement lourds et durs et qu'il faut bien avoir en tête quand on cherche à réfléchir sur ces pays. Dernière caractéristique qui est tout à fait essentielle. J'ai montré que c'était un isthme, qu'il y avait un courant qui allait du nord-ouest au sud-est, le sens d'écoulement des fleuves. Vous savez que c'est des fleuves très anciens qui datent de l'ère secondaire, qui ont varié dans leur niveau. Il y a beaucoup de terrasses, il y a beaucoup de matériel ramené des montagnes septentrionales. Ils divaguent, ces fleuves. Ils n'ont pas toujours occupé exactement le même tracé que maintenant. Mais dans la période de l'histoire, il y a quatre zones qui sont cruciales. Il y a des zones que j'appelle les zones d'articulation du réseau. Vous en avez un ici. Alors, ce n'est pas Alep. Alep est ici. Ça, c'est le fleuve. Hein. Mais là, vous avez un point où on peut aller d'ici vers le nord, vers l'ouest, vers le sud et vers l'est et le sud-est. C'est une zone clé. Et c'est une zone qui va devenir, lorsqu'il y aura des villes suffisamment importantes à l'ouest, c'est-à-dire, disons, pratiquement au milieu du troisième millénaire, mais pas avant, une région clé où les troupes et les rencontres armées vont jouer vraiment en force. Deuxième articulation, c'est Mari. Mari est à côté d'un affluent, le Rabour, et on a souvent penser que Marie n'avait qu'un rapport lointain avec le Rabour, et la plaine du Rabour qui est ici, qui s'ancre dans les montagnes, on pensait que ça n'avait pas beaucoup de rapport. Ça a un rapport essentiel. Marie a été fondée volontairement, je reviendrai là-dessus, pour être à un endroit clé du chemin et bloquer l'accès à la vallée, aussi bien par des envahisseurs qui viendraient du sud que par des envahisseurs qui viendraient du nord ou du Rabour. Alors, c'est un véritable nœud de circulation, et la relation, je l'ai faite beaucoup moins forte que pour la région d'Alep, mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un nœud qui, étant dominé par Marie, ne joue que pour Marie, essentiellement. Et Marie, j'y reviendrai, va chercher des matières premières dans toute la région montagneuse. Troisième nœud fondamental, la région de Babylone, à l'endroit où les deux fleuves se rapprochent. Alors, on dit, oh ben voilà, ils sont rapprochés, puis après ils s'éloignent de nouveau. Certes, ils s'éloignent de nouveau, parce que au fur et à mesure des inondations, il y a eu des déplacements du cours, et je n'insiste pas sur ces déplacements, mais dans l'Antiquité, le réseau n'était pas tout à fait identique à celui-ci, et en particulier la branche du Tigre se creusait beaucoup moins vers le sud que au moment où maintenant on le voit. Alors, pourquoi ce nœud est-il important ? Je me place exprès, de façon un peu elliptique, hein, mais avec les conséquences humaines et modernes, historiques que l'on peut voir. C'est là que se trouve Babylone. Alors on dit, voyez, Babylone s'est très très bien installée. Oui, mais Babylone a été créée. Il n'y avait rien avant. Et pourquoi est-ce que Babylone a été créée là ? Est-ce que Babylone a été créée par des gens de Marie qui existaient depuis plusieurs siècles ? Peut-être pas d'indice pour des choses comme celle-là. Mais ça peut être d'autres personnes. Ce n'est pas ça le problème important. Le problème important, c'est que Babylone a été créée pour établir un pont sur l'Euphrate qui permette au trafic qui longeait l'Euphrate de passer sur l'autre réseau. Et comme par hasard, on l'a mis à l'endroit le plus serré. C'est-à-dire qu'on a facilité les transferts et les transbordements de marchandises pour les mettre de l'autre côté. Pourquoi les mettre de l'autre côté ? Pour pouvoir utiliser la branche orientale du Tigre et pour pouvoir, le cas échéant, remonter le cours du Tigre, c'est-à-dire aller vers le domaine assyrien. On voit très bien que la morphologie de ce réseau, c'est une morphologie qui est totalement adaptée au pays et qui va jouer un rôle dans toutes les relations. Et bon, quand on voit des choses comme celle-là, vous comprenez bien que même si on n'a pas un texte de l'Antiquité qui vient nous dire c'est ceci ou c'est cela, on peut quand même déduire des forces profondes qui se sont exercées dans ce pays. Le quatrième point d'articulation est un point qui est ici, dans le pays sumérien, en relation aussi avec les montagnes de l'Est, et c'est un point où les gens se retrouvent avant de partir vers le Golfe. Donc, quatre zones qui sont à la fois des points essentiels du fonctionnement de la vallée, mais qui sont aussi des points d'où des invasions pourraient venir. Car tous ces points sont placés à des endroits où il y a eu un fleuve qui descend de la montagne, la Diyala, le Karnoum, etc. Et les gens de la montagne ou d'au-delà des montagnes pourraient utiliser ces cheminements pour s'installer en Mésopotamie. Mais est-ce que ce sont des voies d'invasion exogène ? Suivant un peu l'étude, l'évolution, la transformation du pays, eh bien, je dois dire qu'on voit bien qu'il y a des gens qui y arrivent. Les Hittites y arrivent parfois, les Hourites y arrivent, les Cassites au deuxième, les Mèdes, les Perses au premier millénaire, les Élamites. Il y a des gens qui y arrivent. Ils n'ont jamais constitué un empire sur le bassin mésopotamien. C'est ça qui compte. Il y a des populations qui viennent, plus ou moins nombre important. Ils arrivent parfois à organiser un royaume, surtout dans le nord. Par exemple, les Hourites ont fait un royaume, puis au centre, les Cassites, au deuxième millénaire. Mais un royaume, mais ils n'ont jamais fait d'empire. Ils n'ont jamais, par eux-mêmes, occupé. C'est-à-dire que les forces de la Mésopotamie, les forces créatrices de l'empire, elles se trouvent à l'intérieur du bassin mésopotamien et pas en provenance de régions extérieures, sauf... Alors évidemment, c'est une date clé, 539, la chute de Babylone devant les Perses. Et à ce moment-là, la Mésopotamie disparaît en tant qu'entité politique autonome. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quatre photos, hein, pour situer quand même un peu le décor, pour que ça ne reste pas purement théorique. Hein. Voici la plaine de l'Euphrate, la vallée de l'Euphrate. Et vous voyez bien, si c'est exprès que j'ai pris cette photo-là, j'en ai bien d'autres, mais on conçoit très bien qu'une armée en marche suit le fleuve et s'approvisionne avec le fleuve, peut faire abreuver ses bêtes au fleuve et peut avancer. Alors évidemment, le réseau hydrographique devient un réseau majeur et fondamental. Par ailleurs, dès que vous arrivez et vous écartez, vous tombez dans la steppe, et voici un paysage de steppe, il y en a beaucoup d'autres, et vous avez l'amorce des montagnes, ça c'est une coulée basaltique. Oui. Attendez, du bois ?
C'est la forêt, entre guillemets.
Non, 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 pas du tout, c'est du basalte.
Ce qui est en haut, c'est du basalte.
C'est un relief résiduel d'une coulée basaltique. Et ça a formé résistance. Et c'est... Donc, on est vraiment dans un monde qui est quand même très divers, et voici deux, trois autres paysages caractéristiques, j'aurais pu les multiplier. Il y en a une qui manque un peu, c'est la montagne avec les arbres, ça c'est pas là. C'est pas... Là on a la montagne sèche, la montagne dure, la montagne qui va vers l'Iran, hein, c'est ça. Mais il y a aussi des montagnes avec des arbres, et des forêts, des couvertures forestières, surtout vers le nord. Vous avez la zone des marais et vous avez la zone du désert. Qu'est-ce que vous avez là ? Rien ! Vous pouvez regarder à perte de vue, vous n'avez rien que des légers mamelons, des pierres et rien d'autre. Donc c'est évidemment des paysages tout à fait fantastiques de dureté. Bon. Troisièmement, avant de continuer, je vous montre cette carte où j'ai cerné simplement les zones d'occupation par les cités. Et vous vous apercevez qu'il y a un groupe septentrional, d'où est sorti d'ailleurs le pays assyrien, Marie, etc., un groupe septentrional au pied de la bordure montagneuse, irrigué par les deux fleuves, mais c'est un même ensemble. Puis vous avez un groupe à l'extrémité, un groupe en pays sumérien, près du golfe, et là, vous avez une grande densité. Or, entre les deux groupes, c'est le désert. C'est pas un désert, mais c'est vide. Il n'y a pratiquement pas d'occupation. Alors, cette division entre une Mésopotamie septentrionale et une Mésopotamie méridionale, que je vous montre là un petit peu brutalement, il faudrait affiner, mais je vous promets que je pourrai le faire avec les paysages et avec tout ce que j'essaye d'utiliser comme matériaux, on la retrouve. L'équilibre n'est pas au centre, à Babylone. Les points, les centres d'équilibre se trouvent au nord et au sud. Et d'un côté, vous avez la Méditerranée et la montagne. De l'autre côté, vous avez le golfe et l'Asie du Sud-Est. Ceci contraint à réenvisager la Mésopotamie, non pas avec un babylono-centriste comme on le fait toujours, mais avec une réalité de l'occupation du sol. Et je suis, moi, stupéfait parce qu'il y a longtemps que ça m'est sauté aux yeux et que ça... Je ne sais pas, les gens n'y viennent pas. Mais on est où ? On est dans le système égyptien, avec une haute Égypte et une basse Égypte. Mais la différence, c'est qu'en Égypte, au sud, on est dirigé vers le continent. Ici, on est dirigé vers deux pôles maritimes. Et ces pôles maritimes, bien entendu, on n'a pas de texte pour nous dire que ces pôles maritimes ont joué un rôle essentiel avant les textes. Mais il est bien évident que si le nord se développe comme ça et le sud comme cela, c'est toujours en relation avec les deux pôles maritimes que je vous ai cités tout à l'heure. Le résultat, c'est qu'on peut en arriver à l'idée qui me paraît féconde et extrêmement forte pour la compréhension du système mésopotamien sur une bipartition naturelle du bassin mésopotamien. Il y a le nord avec une zone bordure de montagne, mais surtout plateau et vallée. Il y a le sud avec une bordure de montagne et la vallée, la plaine alluviale. Et des deux côtés, vous avez la mer. Donc, ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer après sur le plan général de l'histoire. Alors, je vais vous poser une ou deux questions. Pourquoi la guerre dans ce milieu ? Bon, première remarque, le pays utile en Mésopotamie est très réduit. Vous avez les fleuves, avec un espace agricole, vous l'avez vu tout à l'heure sur la photo. Puis vous avez la montagne, parce que dans la montagne, il y a des matières premières dont on a besoin. Il y a du bois, et il y a tout le reste, je reviendrai sur ce qu'on va chercher dans la montagne. Le reste du pays, je n'ai pas fait une étude exacte de la superficie, mais enfin, on voit très bien que les gens sont concentrés dans les vallées et dans quelques zones de plaine, qui sont d'élargissement des vallées. 90% peut-être du territoire, c'est des steppes. C'est une steppe, c'est le pays des nomades, c'est le pays du désert, etc. Puis, vous avez l'autre constatation, pays utile très réduit. Deuxième constatation, pays d'argile et d'eau. Alors, vous ajoutez à l'argile et à l'eau le roseau, le basalte et le bitume. Le roseau, ça fait partie de l'eau. Le basalte, non, ça fait partie de l'histoire géologique. Le bitume aussi. Mais vous n'allez pas faire grand-chose avec le basalte et le bitume en premier lieu. En revanche, avec l'argile et l'eau, vous allez faire de l'agriculture et de l'élevage. On constate, par cet inventaire extrêmement rapide, qu'il y a des lacunes graves et que les Mésopotamiens sont obligés d'aller rechercher des matières premières manquantes dans les montagnes. Minerai de cuivre, minerai d'étain. Alors je rappelle à ce propos que nous avons un des premiers textes qui nous parle de l'expédition de Sargon au milieu du 3e millénaire, premier empire agadéen, qui nous parle de Sargon qui va vers la montagne d'argent. C'est pas par hasard qu'il nous parle, le texte, il ne nous dit pas qu'il va chercher, mais il va vers la montagne d'argent. C'est bien, l'objectif, c'est bien d'aller vers les sources de l'argent et les sources du métal. On cherche bois d'œuvre, des pierres spéciales, stéatite, chlorite, diorite, pierres précieuses, lapis-lazuli en Afghanistan, cornaline en Inde, etc. Deuxième lacune, qui est énorme, et auquel on ne fait pas toujours assez attention, la recherche d'esclaves. Recherche d'esclaves dans les montagnes. Pourquoi ? Parce que les fondations de villes, là j'ai encore un rééquilibrage de mon image et puis la dernière ligne elle n'est pas marquée. Enfin, c'est pas très grave. Fondations, on va chercher des esclaves parce que les villes ne sont pas des produits d'un village qui augmente. Les villes sont des organismes construits en une seule fois. C'est-à-dire que ce sont des travaux gigantesques. Prenez Marie, 1,3 km de diamètre, sans parler des systèmes de défense, sans parler des canaux. 1,3 km sur lequel, au moment de la fondation, on a surélevé le sol pour éviter l'action de l'eau de plus d'un 1 à 2 mètres. Ça fait des millions de tonnes de terre déplacées pour les esclaves. Alors, bien sûr, les textes ne nous en parlent pas, il n'y a pas de texte. Donc on ne s'en rend pas compte, mais il a fallu aller les chercher. Et ce n'est pas par hasard que Marie est établie là où était Marie, parce que là-haut, dans les montagnes du Taurus, il y a une possibilité d'avoir des troupes, des tribus qui sont disséminées, qui ne sont pas dans le système mésopotamien. Alors, je signale qu'il y a une autre forme de guerre qui apparaît plus tard, c'est le Rezou, là où se trouvent les tribus nomades sur les marges du royaume en bordure des fleuves. Notons encore l'existence d'expéditions hors Mésopotamie que l'on connaît déjà au 4e millénaire. Alors, je cite pour ceux qui connaissent les noms, Girod, Shaddad, etc. Il y a une activité de commerce, vase de chlorite, etc., que l'on trouve à Marie, dans la Diala. On voit très bien que ces gens-là, ils connaissent le monde, ils sortent, ils ont des actions de relations. Seulement, nous avons très peu d'informations sur les formes d'approvisionnement. Donc, je n'insiste pas maintenant là-dessus, mais c'est un point qui est extrêmement important. Alors, que sont les armées dans ce milieu ? Mais évidemment, il y a des obstacles difficiles à franchir pour une armée. Je ne vais pas les analyser dans le détail, mais les steppes, les déserts, les montagnes ne sont pas des barrières. Et elles ne sont pas impénétrables, ces montagnes. Il y a les vallées qui rentrent à l'intérieur. Et puis, il y a le problème de l'eau. Ce sont des obstacles difficiles. Certains sont absolus, d'autres non. Alors, comment les habitants de Mésopotamie se sont-ils sortis de ce système des obstacles. Parce qu'enfin, quand on voit que c'est le premier pays à former à la fois des villes et des empires, on peut se dire qu'ils ont su dépasser les obstacles qu'ils rencontraient. Globalement, on ne pense pas assez à la puissance de leur technologie. Ils ont une technologie de plus en plus poussée. Exemple, les canaux. Ils ont créé de toutes pièces les canaux à partir du 5e millénaire. Pour l'agriculture, mais on a oublié, en insistant sur la valorisation de l'espace agricole, que les canaux, c'est aussi le bois. Ils transportent le bois parce que du bois, il n'y en a pas. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Deuxième élément, domestication. L'âne, 4e millénaire. Le cheval, fin 3e. Dromadaire, fin 2e. Ils recherchent la force animale parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen sauf d'utiliser la rivière et les canaux. Dernière technologie de pointe qui a donné naissance à tout le système urbain, la métallurgie. La métallurgie qui allie le cuivre et l'étain pour faire du bronze au 4e millénaire. À partir de la fin du 2e, c'est le fer qui apparaît. Et je ne voudrais pas oublier la roue, puisqu'on y a fait allusion hier. La roue qui a joué un rôle essentiel dans ce pays à partir du début du 3e millénaire. Avant le 3e millénaire, il n'y a pas de roue. Autrement dit, les déplacements ne peuvent pas se faire sur des chariots. Les déplacements ne peuvent se faire qu'au fil de l'eau si on transporte des produits lourds. Et donc en descente. Tout ça, ce sont des contraintes qui sont extrêmement lourdes quand on veut développer un pays. Voyons maintenant l'armée. L'armée en marche dans ce milieu. On constate, à partir surtout des textes, qu'il y a des effectifs en augmentation, sans doute assez régulière. Mais je dois vous dire que l'enquête est très difficile. Il semblerait que Sargon, d'après ce que disent les historiens des textes, ait conquis son empire avec 5400 hommes. J'ai quand même des doutes très sérieux. On ne fait pas un empire qui va de la Mésopotamie méridionale jusqu'à la Méditerranée avec 5400 hommes qu'on déploie dans les batailles et après pour tenir les villes. On ne tient pas ces villes avec une dizaine d'hommes. Il faut beaucoup plus de gens. Et je pense que là, c'est nos sources écrites qui mériteraient d'être réévaluées. Malheureusement, nos spécialistes des textes, ils ont une telle confiance dans le texte qui est le leur, qu'ils n'arrivent même plus à voir la réalité de ce que c'est qu'une armée qui construit un empire de 1200 kilomètres de long, avec des points d'appui, avec une organisation, des échanges, des relais de poste, des choses comme ça. Ça existait, tout ça. Bon. Deuxième question, la vitesse de déplacement. Bon, moi, ça, je crois que là, on n'a pas grand-chose comme indication, mais enfin, c'est sans doute de l'ordre de 30 kilomètres par jour pour l'armée. On évite le déplacement en hiver, à cause des pluies et des zones d'enlisement possibles. Il n'y a pas tout le temps de la pluie, hein, mais il peut y en avoir, et on s'aperçoit qu'effectivement, les déplacements d'armée, ça se fait rarement en hiver. Déplacement le long des cours d'eau et d'ouedes à sec, pourvus de puits. On utilise parfois des bateaux, mais il ne faut pas oublier qu'utiliser des bateaux dans ce système, ça veut dire qu'on va vers l'aval, on descend le cours. Si on veut remonter, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de force de voile, c'est pas possible, le fleuve est beaucoup trop étroit, on peut faire la rame, mais essayer de remonter à la rame, c'est cours d'eau. Non, il n'y a qu'un seul, une seule possibilité, c'est le halage. Or, qu'est-ce qu'il dit halage? Il faut qu'il y ait des animaux, on peut mettre les hommes, mais enfin, vous vous rendez compte de la masse d'hommes qu'il faut pour monter même une seule barque avec chargée, hein, pour lutter contre le vent, pour contourner les sinuosités du parcours, pour faire des transports de bord lorsque on est beaucoup trop près de l'autre et qu'on ne va pas pouvoir suivre la profondeur de l'eau. Donc il y a toutes des quantités de problèmes qui se posent. Dernier grand problème d'une armée en marche, le transport du matériel. On croit que quand on dit qu'il y a 5400 hommes pour Sargon, ils se promènent comme ça avec juste une épée. Non, ils ont tout un équipement. Ils ont du matériel, ils ont des réserves alimentaires, ils ont toute une charge. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'époque de Sargon? Nous commençons à avoir la roue. Première attestation, de la roue en milieu mésopotamien, de la roue trouvée en fouille, c'est moi, je m'excuse, c'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai trouvé la plus ancienne attestation d'une roue, d'un char, quelque chose comme ça, dans mes fouilles, et ça date du 28e siècle. Donc c'est 3 ou 4 siècles avant Sargon. Et avant, on n'en a pas en Mésopotamie. La Mésopotamie n'a pas inventé la roue. Hein, ça vient d'Europe, des steppes. Ensuite, l'âne, à partir de la fin du 4e millénaire, il y a des ânes. Quelle est la charge d'un âne? 60 à 100 kilos, selon la nature de l'âne. Il y a des ânes légers, il y a des ânes moyens, des ânes lourds. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, 30 à 40 litres d'eau par jour quand il est en caravane, à tirer du puits, etc. Les chevaux montés par des combattants ou attelés à des chars de guerre à partir de 2000. Mais ils ne sont pas faits pour tracter le matériel. C'est uniquement des soldats et des chars de guerre. Les chariots, alors on dit, mais oui, il y a les chariots. Oui, les chariots, lorsqu'il y a la roue, il peut y avoir des chariots. Mais les bœufs, combien est-ce qu'ils marchent dans une journée ? 10 kilomètres. Vous n'allez pas faire déplacer une armée rapidement avec des chars qui font 10 kilomètres par jour. Parce que y a souvent un effet de surprise. Il y a des bœufs et il y a des chariots, mais c'est plutôt pour le butin, pour ramener le butin à la ville de départ. Et puis il y a, à partir de 1200 000, l'apparition des dromadaires. Et l'avantage, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est qu'ils sont capables de franchir le désert, d'assez grandes distances dans le désert. Les techniques d'affrontement, je ne vais pas insister, nous sommes très très peu renseignés sur les techniques d'affrontement parce que les textes ne nous en parlent pas, il faut quand même être très clair. Il semble que l'affrontement se fait en rase campagne. Il se pourrait qu'il y ait une charge frontale. Mais il se peut qu'il y ait aussi d'autres manœuvres, et nous ne les connaissons pas. Mais il est vrai que le terrain, vous l'avez vu tout à l'heure, dès qu'on est dans la steppe, c'est ouvert de tous les côtés. C'est quand même difficile de créer des pièges. C'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais ça pose des tas de problèmes. En réalité, le principal affrontement pour les armées, c'est le siège des villes. Et les villes sont des points forts du système, du réseau, et les armées ennemies viennent se mettre autour de la ville et on la rend exempte par le siège et on l'affame. Enfin, dernier point, et ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas très connu, mais nous avons quand même des textes qui nous le prouvent de façon absolue, l'utilisation des voies d'eau. On détourne les voies d'eau de leur cours normal pour affamer une ville, pour lui enlever l'eau. Le cas s'est produit dans la ville de Larsa, que j'ai fouillé il y a une cinquantaine d'années, où une armée ennemie, la ville de Larsa était alimentée par un canal, et l'armée ennemie est arrivée, et à je ne sais pas combien, 15, 20 kilomètres en amont, a coupé le canal, l'a dévié, et la ville était exsangue, elle a dû se rendre. Donc, vous voyez, les armes sont quand même adaptées aussi au milieu, et c'est là où on voit qu'il y a évidemment beaucoup de ressorts. Dans ce monde, dans cet univers, comment voit-on...
C'est fini ?
Oui, c'est les hommes. Alors, je vais effectivement... Oui, je me laisse un peu emporter, c'est vrai. Bon, alors je vais poser deux questions. Pourquoi la guerre et de la cité à l'Empire ? Alors, premier point, exemple de Marie. Je ne vais pas vous le développer. Simplement, Marie, c'est une ville circulaire construite vers 3000 avant Jésus-Christ, en une seule fois. Marie occupe un territoire qui est un territoire de la vallée et qui se branche sur les montagnes du Nord. L'ensemble du territoire de Marie s'étend à peu près à 250 km du point de départ. Moi, je pose la question, est-ce qu'une ville qui a autour d'elle 250 km de territoire, est-ce qu'on peut appeler ça une cité-État ? Pour moi, la cité-État, telle qu'on me l'avait enseignée quand j'étais à la Sorbonne il y a 60 ans, c'était une ville qui avait une structure urbaine, mais qui n'avait pas de terre. Et qu'il fallait qu'elle compense soit par un empire maritime, soit par une association avec d'autres. Mais il n'y a pas de véritable... Alors, je veux bien, mais il faudra voir ce qu'on entend par cité-État. Et je trouve qu'il y a là un élément assez intéressant à développer, je ne le ferai pas maintenant. Ensuite, le point qui est tout à fait intéressant, j'ai marqué ici les sources d'approvisionnement en matières premières dans la montagne. Voici la zone qui est particulièrement concernée par les habitants de la Mésopotamie. Et vous avez ici, avec Marie, les deux points d'extraction du cuivre et de l'étain, les deux routes allant vers Marie, et Marie transforme le minerai. Il lui arrive de faire venir du minerai déjà transformé sous forme de métal brut et de transformer et de travailler ce métal brut. Elle arrive aussi avec du minerai, nous avons eu la preuve dans les fouilles. Or, la ville 1, la ville la plus ancienne de Marie, nous l'avons fouillée sur à peu près 400 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup, parce que le total c'est 285 hectares hein, pour la ville centre, la partie centrale. 400 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup. Nous avons trouvé en quatre endroits différents, et pas du tout l'un à côté de l'autre, 25 ateliers de bronziers. Ça veut bien dire que la ville, elle vit du bronze. Et c'est ça, sa vocation. Bon, la conclusion de la cité, je n'insiste plus sur Marie. Simplement, je veux indiquer que, historiquement, il y a trois villes successives séparées par trois phases d'arrêt. Il y a la ville 1, d'où viennent tous les bronzes dont je vous ai parlé. On ne sait pas ce qui s'est passé pour sa fin. Il y a la ville 2, 25e, 24e siècle. Elle se termine par la victoire d'Agadé, le premier empire, et l'effondrement de Marie. Il y a la ville 3, qui se termine avec la victoire de Hammurabi. Dans deux cas connus sur trois, la ville s'est effondrée parce qu'elle a rencontré une puissance impérialiste montante. Je pense que Marie était elle-même sans doute sur la voie impériale et que le heurt s'est produit entre une cité fondée sur l'économie et qui avait beaucoup de pouvoir, de possibilités et de richesses et une puissance extérieure qui a voulu mettre la main sur cette production de bronze et sur les clés que représentait Marie. C'est pour ça que je crois qu'il faut bien se rendre compte que la formation de l'Empire, c'est une formation endogène. Alors, à la base de l'organisation territoriale de la Mésopotamie, vous avez la cité. Pouvoir politique, pouvoir économique, espace territorial, etc. Toute une organisation hiérarchisée du territoire. On connaît les chefs de district, on connaît les gouverneurs, qui sont parfois des gouverneurs, parfois des rois, etc. C'est toujours le même système qui réapparaît. Dans cette organisation territoriale, la guerre est constitutive du pouvoir. Les dieux des cités sont en guerre entre eux, les hommes participent au conflit, et il y a une dimension sociétale de la guerre. On porte la guerre chez le voisin pour faire triompher le dieu de sa cité, et puis on rafle toutes les richesses de la cité voisine. Ça, c'était absolument évident. La victoire assure la domination sur la cité vaincue et la formation d'une unité territoriale renforcée. Alors, finalement, quand un pays comme Marie se fait manger par Babylone ou par Agadé, eh bien, ça n'a eu comme conséquence que de former pour le vainqueur un royaume plus puissant. Il a rajouté le domaine qui appartenait à Marie, et l'a rajouté à son territoire et à ses forces. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup d'hésitation à accepter le terme de cité-État pour ce pays. Les formations impériales. Bon, je ne vais pas insister beaucoup, simplement, qu'est-ce qu'un empire dans le contexte mésopotamien ? Une construction territoriale réalisée par une ville, qui a maintenu sa domination sur un territoire en expansion au cours d'une relative longue période. De la cité autonome à la capitale d'empire, on voit cette évolution. Alors, la question qui se pose, cité autonome, mais elle est dirigée par un roi. Est-ce que ce n'est pas déjà un royaume ? La cité. Ensuite, quand c'est un empire, c'est toujours dirigé par un roi, et les systèmes de délégation de pouvoir auprès des serviteurs du roi sont toujours les mêmes. On n'a pas changé de structure. Donc, pour moi, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent sur le fait que l'empire soit autre chose que le pouvoir de la cité initiale dilatée. Et ça, c'est un point qui est très important. Seulement, les conditions ont fait que, effectivement, ça s'est dilaté et ça s'est répandu. Alors, quelle différence avec le royaume ? L'extension du territoire, essentiellement. Après, on peut voir s'il y a d'autres choses, mais c'est quand même à peu près ça. Je ne reviens pas sur Agadé. Je veux simplement rappeler qu'il y a eu un millénaire de civilisation urbaine avant les premiers textes, et avec deux phases d'urbanisation, et que c'est évidemment très important. Alors voici dans ce tableau les trois grands empires que l'on peut définir. Il y a d'abord l'empire d'Agadez, ici il y a l'empire de Hammurabi, là il y a eu un empire médio-assyrien, mais moi je n'hésite à l'appeler empire, je pense que ce n'est qu'un royaume, et il y a l'empire néo-assyrien qui est ici, qui se poursuit en empire néo-babylonien. On ne le sait pas, mais ce n'est pas vrai, c'est toujours le même. L'empire n'a pas bougé, il ne s'est pas effondré. Ce qui est arrivé, c'est un nouveau roi qui était babylonien et pas assyrien. Mais le cœur de l'empire s'est déplacé, mais l'empire est resté l'empire, il n'a pas bougé. Donc il y a là quelque chose qui évidemment est extrêmement intéressant, c'est cette fixation. Et ce qui est d'ailleurs particulièrement intéressant, c'est qu'à l'époque néo-assyrienne ou néo-babylonienne, on voit très bien que les deux parties constitutives de la Mésopotamie du Nord et de la Mésopotamie méridionale marquent de leur empreinte les villes qui sont là. Et que par conséquent, on a bien un territoire du Nord et un territoire du Sud. L'évolution simplement spatiale et la durée des empires, sur durée totale des empires connus, 8 siècles. Durée totale des royaumes de taille variée, 17 siècles. C'est-à-dire que c'est un pays d'empire, c'est quand même faire léger avec la réalité des durées. Il y a une discontinuité, la base géographique de Babylonie centrale, il y a 4 siècles sur 25, la base géographique assyrienne, il y a 4 siècles sur la même période. Donc ce ne sont pas des très grandes affaires. Je rappelle qu'après 539, chute de Babylone, on observe empire perse, empire hellénistique, empire romain, sassanide, empire byzantin, islam d'Orient, empire ottoman. Où sont les choses qui sont... Tout ceci vient de l'extérieur. À 539, la Mésopotamie perd son autonomie, perd sa personnalité, perd sa réalité de zone de grand pays. Après, on a toujours des gens qui viennent de l'extérieur. C'est ça l'idée principale. J'avais encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai un petit peu abusé.
Tout autant qu'une question, c'est plutôt une remarque. Vous parliez des 5400 hommes de Sargon. Se souvenir qu'en 1900, lorsque les troupes de marine sont passées au ministère de la guerre, les troupes de marine constituaient en tout 60 000 hommes. 60 000 hommes, dont un tiers, grosso modo, étaient en transit ou en métropole. Ça veut dire que tout l'Empire français était tenu par 40 000 hommes. Pourquoi ? Prenons le cas de la mission marchand. 7 blancs, 250 tirailleurs sénégalais, 2000 porteurs, un territoire non pas conquis mais rattaché à la France, équivalent à quelque chose, je crois que j'ai calculé une fois, deux fois ou deux fois et demi le territoire français. Tout simplement parce qu'il y a deux types d'empires, ceux qui se conquièrent à la force de l'épée et ceux qui se conquièrent par du protectorat ou une espèce de féodalité. Et quand vous dites qu'il y a eu, suivant les périodes assyriennes, je ne connais absolument rien en assyriologie, je suis niveau zéro. Mais quand vous dites que les empires qui se sont succédés, c'est en fait plutôt un changement de centre de gravité, la question que je me pose naturellement, au vu de ce que j'avais dit précédemment, est-ce que tout simplement ces empires-là ont été conquis au fil de l'épée et donc devaient être gardés face à une résistance, etc., modèle occupation allemande en URSS, enfin, je veux dire, ou est-ce que tout simplement ces empires-là étaient sur une base de soumission avec éventuellement une bataille, comme on a fait en Algérie, une bataille, t'as perdu, maintenant t'es soumis. Et dans ces cas-là, les confins algériens, du côté français, étaient tenus par des poignées d'hommes. Mais il y avait une espèce de système de féodalité avec la France, notamment la France du Grand Empire, qui fait qu'on avait un empire immense tenu avec très peu de personnes. Et les changements de centre de gravité au sein même de l'empire assyrien, en rappelant même totale méconnaissance du sujet, on peut se demander si c'est pas tout simplement... comme on a eu en France, le comte de Provence qui commence à devenir un peu gros et qui, au bout d'un certain temps, explique au roi que maintenant, c'est lui le roi.
Le changement de centre de gravité, il n'existe que pour la dernière phase, empire athérien, empire babylonien. Avant, il n'y en a pas. On ne connaît pas d'exemple. C'est juste un moment. Et il y avait une rivalité depuis très longtemps entre les Assyriens et les Babyloniens. Ça, sur le plan historique, je pourrais vous l'expliquer dans le détail. Et effectivement, cette rivalité, à cause de la défaite des Assyriens devant une armée mède, est passée à Babylone. C'est tout. Et bon. Alors, ça c'est pas... Bon, d'autres questions. Moi, je veux bien qu'on puisse tenir un empire de 1200 km de long et de 500 ou 800 km de largeur avec 5400 hommes. Cela dit, c'est un empire, et je l'ai dit, qui est fait de villes, et les villes sont derrière des remparts. Si vous ne mettez pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre un homme tous les 10 mètres sur les remparts, mais il faut qu'il y en ait. Si vous avez un groupe de 20 ou 30 soldats pour tenir une ville, ça ne marchera pas. Parce qu'ils ne tiendront pas les gens s'ils ont envie de révolte. C'est avec des effectifs aussi faibles, vous ne pouvez pas dominer complètement une ville. Donc, je pense, moi, c'est ce que je dis là, c'est un petit peu rapide, hein, c'est qu'en réalité, nous avons beaucoup de difficultés à bien comprendre ces textes cunéiformes des hautes époques. Et je pense qu'on prend une tablette, on croit qu'on a les effectifs de l'armée, on a les effectifs d'une région et pas l'armée. Mais pour les gens qui sont là-bas, ils traitent de documents, ils n'ont pas besoin, comme nous, ils ne nous donnent pas tout. Donc, personnellement, je continue à être très réservé, je ne vous le cache pas, malgré les exemples que vous donnez, qui sont des exemples vrais, qui ont une valeur, mais les quelques milliers d'hommes français qui ont conquis ou dominé l'Empire, ils avaient effectivement des locaux qui faisaient le boulot. Là, on a certainement pas...
Est-ce que ça n'était pas plus ou moins bien là-bas ?
Mais attendez, ils ont des hommes et des soldats, eux aussi. Il faut quand même pas... Vous croyez pas que vous allez tenir Marie avec 50 hommes ? Mais non, c'est pas possible. Si la ville joue un rôle, elle a des moyens.
Le comte de Provence aussi.
Oui, enfin, mais c'est pas tout à fait. On est.
C'est une question.
Oui, moi, je pense que je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas sûr du tout que on soit dans un concept de même ordre. On est dans un autre concept. C'est tout. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en suis arrivé à dire, je pense qu'il faut réviser un certain nombre de choses, dont ça. Mais je ne vais pas vous dire combien il y avait d'hommes, je n'en sais rien.
Oui, oui. Non, mais je vous encourage très vivement à coucher par écrit tout ce que vous avez dit, et sans vous sentir limité par la distance, si je puis dire. Parce que c'est tout à fait passionnant, enfin, et en particulier, sur certains points, vous renversez les idées reçues. Enfin, on a tous en tête, lorsqu'on a fait l'histoire, la Mésopotamie, c'est comme l'Égypte. Parce que, bon, c'est une vallée, et donc une vallée, ou bien hier nous avons vu les Andes, ça finit par être unifié. Or, c'est pas ça. Il y a deux centres de gravité. Alors, je suis prêt à vous donner raison, enfin, mais un confrère qui dirait le contraire me convaincrait probablement aussi. Alors, sur un point, j'adhère entièrement à ce que vous avez dit, l'idée de cité-État. Je suis persuadé depuis des décennies qu'il n'y a jamais eu de cité-État dans cette région, pas plus qu'en Chine, pas plus qu'en Inde. Enfin, alors que tous les sinologues anciens parlent de l'âge des cités, etc. C'est une confusion entre cité et ville, tout simplement. Or, et qui est facile à faire, la distinction n'existe qu'en grec, en latin et en français. C'est aussi net que ça. En allemand, c'est dit Stadt, en anglais, c'est the city, et en italien, la città. Et donc, il y a une confusion. Ça m'avait frappé en lisant Max Weber, enfin, il y a très, très, très longtemps. Il pédale dans la choucroute, dans l'économie et société, à propos de la ville médiévale. Parce qu'il n'avait pas en tête cette distinction simple et claire que la cité, comme une certaine manière de vivre ensemble, qui peut ne pas être une ville du tout, par exemple Sparte, et d'autre part une ville qui peut n'avoir rien à voir avec une cité-État. D'ailleurs, l'expression elle-même est absurde, il n'y a pas d'État à Athènes. Il y a une cité athénienne, plus exactement des Athéniens, qui n'est pas la même chose.
Le nom officiel d'ailleurs de la cité, c'est les Athéniens.
Athéniens, Athénaïeuil, oui, oui. Monsieur, oui.
Dans les cas moins connus de la Chine, je propose de réfléchir parce que c'est marrant parce que nous, quand on parle de l'Asie centrale chinoise, c'est-à-dire la région du Xinjiang, qu'on verra sur la carte, la région est formée et fonctionne par des oasis qui sont, au 1er siècle avant notre ère, majoritairement indépendantes. Alors, les textes chinois parlent de ces oasis sous le terme guo, qui est royaume. Alors, les Chinois utilisent deux termes. Ils utilisent guo pour dire royaume et chang pour dire ville. Et ils utilisent un caractère très particulier. Chang, c'est toujours une ville fortifiée. Et ils distinguent bien ce qui est une ville et ce qui est un royaume. Alors, on sait que ces oasis, qui sont à peu près une cinquantaine, vont être prises plus tard, mais ces oasis, en fait, fonctionnent vraiment. Et là, nous, on utilise encore ce terme de cité-État, mais dans une application chinoise, c'est-à-dire vraiment un territoire, ville plus terre, hein, pas que ville, ville plus terre, indépendante, qui fonctionne indépendamment avec ses ressources minières, ses ressources commerciales, parce qu'on est sur des routes de commerce. Et là, on utilise vraiment ce terme, on sait qu'ils sont, pour ainsi dire, indépendants les uns des autres. Et plus tard, ils vont se former, il va y avoir en fait des royaumes plus importants. Mais les distinctions chinoises, et je finis là-dessus, sont très claires dans les textes. On a à peu près le même problème. La différence en Chine, c'est que les textes recouvrent une période plus importante, notamment sur la période des Han. Et ils vont dire guo pour certaines oasis, et d'autres, ils ne vont pas l'utiliser, le terme. Ils ne vont pas dire royaume. Donc voilà, ça c'était juste une injonction par rapport à.
C'est intéressant, mais c'est le Xinjiang.
Et ça, c'est la région du Xinjiang.
Ce sont en fait non pas des cités-États, mais des États construits autour de cités.
De villes, de villes.
De villes.
De villes, des villes-oasis.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en Mésopotamie, la ville est toujours fortifiée. La vraie ville est toujours fortifiée. Il n'y a pas de ville qui ne soit pas fortifiée, c'est un village. Alors, il n'y a pas de grand village, mais
Et si on prend l'exemple grec, en réalité, on se fourvoie un petit peu dans la mesure où, dans l'exemple grec, nous avons bien eu également des cités, des États organisés autour d'une ville qui ont formé cela une cité, mais il y avait la possibilité, ce qui est encore étendu, la possibilité à la fois géographique et à la fois mentale et militaire. Qui veut dire que la cité grecque, elle a quand même un territoire. Mais le territoire, nécessairement, est très petit. Et toutes les cités qui ont voulu avoir un territoire extrêmement étendu, si vous permettez l'expression, se sont cassées les figures. C'est le problème d'une cité comme Athènes. Il y a normalement, en Attique, la taille de trois cités. Ça a été extrêmement difficile à constituer. Et Athènes n'a jamais réussi, à régler la contradiction qu'il y avait entre un État territorialement très vaste, qui était donc obligé d'avoir une politique extérieure hégémonique, et un fonctionnement de cité. Finalement, en Attique, c'est quand même les habitants de la ville d'Athènes qui dominent les habitants de la ville d'Éleusis ou les habitants de la ville de Marathon.
Mais dans une certaine mesure, dans le monde romain, on a quelque chose de voisin, avec un Rome qui domine tout et qui est obligé de surimposer son autorité à toutes les autres villes qui avaient à l'origine un même statut. C'est donc la puissance des armes et de l'Empire qui a transformé le système.
Tout en sachant, et là je rejoins également ce que disait M. Boulard, que le nombre de soldats romains qui dominent l'Empire est également extrêmement petit, mais ça n'est possible que parce qu'il y a ailleurs les structures urbaines et parce qu'il y a les défenses locales des villes, et à période plus tardive, je pense à l'Empire romain tardif, parce qu'il y a sur place tout ce qui permet de lutter contre une invasion avant que la Légion romaine arrive. Donc, si je puis dire, vous êtes l'un et l'autre sur les deux versants d'une même réalité.
Oui, oui, mais moi, j'ai été obligé d'aller de façon un petit peu schématique, puisque je survolais l'ensemble de là. Mais il y a des points sur lesquels je serais tout à fait d'accord pour infléchir un petit peu la vigueur de mon.
Pas trop.
Merci.
À mon avis, il vous suffit de supprimer le mot cité partout et de mettre ville à la place.
C'est une bonne idée. Bon. C'est une bonne idée. D'ailleurs, moi, je parle toujours de l'apparition des villes.
Oui, non, mais pour la région, pas en Grèce, ni en Italie, enfin, bon, ni au Moyen-Âge, en Europe, enfin, bon. Bien, je propose de passer à la Chine.
Excusez-moi, je crois que j'étais un peu long.
Non, mais...
Je voudrais poser une dernière question. Juste une dernière question, mais elle est peut-être complètement anachronique. En fait, en vous écoutant, on trouve beaucoup d'analogies avec l'État islamique, mais la référence historique de l'État islamique, c'est le califat. Est-ce qu'on peut faire un parallèle en termes de bassin de civilisation, en termes de processus même de construction entre ces empires assyriens et puis l'État islamique aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas, c'était assez difficile de vous répondre comme ça, dans une netteté qu'on aimerait pouvoir avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que les dieux, je l'ai dit très vite, je ne suis pas du tout attardé sur cet aspect, il faut savoir que chaque ville a un dieu majeur. C'est le dieu de la ville. Les autres dieux sont adorés, il y a des temples. Mais la ville, elle est donnée, et elle est vouée à un dieu. Et cette ville, les gens du pays portent au nu leur dieu. C'est comme ça que Marduk, parce que Babylone est montée, Marduk est devenu un dieu plus important, ou Assur, parce que c'était le dieu d'Assur, est devenu plus important à cause des empires. Mais tous ces dieux locaux, tous ces dieux urbains de fondation, et c'est toujours des lieux de fondation, hein, c'est la ville est vouée au dieu, c'est pas autre chose. Alors, ça donne une diversité, non pas de religion, mais de pouvoir religieux, qui est évidemment assez important. Or, ça peut aller loin. Au moment de la défaite de Babylone, Nabonide était mal vu des troupes du clergé de Marduk, et c'est le clergé de Marduk qui a livré les clés de la ville aux Perses. Ce n'est pas une victoire en rase campagne. Ça a été un abandon par le clergé. Ça veut dire que nous manquons souvent de documents pour connaître bien le jeu des forces religieuses. Voilà ce que je voulais juste vous dire. Et que j'aurais beaucoup de peine à répondre schématiquement à votre question.
Et non, il y a une réponse toute simple qui est dans votre exposé, le dernier point, les empires. Après 539, c'est le même processus. Daesh pourrait éventuellement, je n'y crois pas une seconde, recréer quelque chose comme un empire ottoman.
Oui.
Mais n'ont pas les moyens, si vous voulez. Autrement dit, c'est explicitement, enfin bon, j'ai regardé ça d'assez près, on a des textes traduits des idéologues du mouvement, apparemment Abou Bakr al-Nadji, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, qui dit explicitement, se réfère au processus de conquête des empires byzantins et perses au tout début, enfin, de... Oui, mais non, oui, mais ça suppose que bon, l'Empire byzantin était en crise, il y avait eu des pestes, etc. Et puis l'Empire perse était en état de déliquescence, il y avait toute une série de problèmes. Autrement dit, ils sont arrivés. Enfin, c'est comment dire, un apax historique, les débuts de l'islam. Enfin, c'était d'une improbabilité infinie, aussi infinie que Lénine au pouvoir en Russie, si vous voulez, mais c'est arrivé.
C'est arrivé.
Donc c'est plutôt dans ce cadre-là, avec, je répète, là, pour moi, la probabilité est nulle. Enfin, bon, est nulle. Éventuellement, un petit territoire du côté, mais les Kurdes n'en veulent pas, les chiites n'en veulent pas, je ne vois pas la possibilité que... Ils ont un pouvoir de nuisance, une capacité de nuisance considérable, donc ça peut... Et ça peut durer longtemps, enfin, mais faut pas très. Non, bah oui, alors ça c'est une autre question. Qu'est-ce que les débuts de l'islam, en dehors des conquêtes qui sont des faits historiques, si vous voulez, et d'une obscurité totale. Il est impossible définitivement d'écrire une biographie de Mahomet. C'est, tout est, comment dire, légendaire n'est pas lourd, mais on ne sait pas ce qui est légendaire, ce qui ne l'est pas. Même religieux, c'est la plus grande probabilité que c'est né dans un milieu judéo-chrétien un peu dissident, plus ou moins hérétique, si vous voulez, plutôt d'ailleurs juif que chrétien, c'est pourquoi donc très anti-chrétien, et ainsi de suite. Et à mon sens, ça c'est mon interprétation, j'ai pas mal étudié cette question, c'est devenu une religion dans les trois siècles qui ont suivi. Au départ, c'est plutôt une idéologie tribale, voilà. Et très progressivement, et je dirais que c'est Al-Razali qui transforme l'essai. Or, Al-Razali meurt en 1111, c'est facile à retenir. Ça fait 5 siècles après. C'est un processus très long. Mais cela dit, Saint Augustin, c'est le 4e siècle. Hein. Ça prend du temps pour élaborer ces choses.
La difficulté que nous avons à bien comprendre ces périodes, surtout haute en Mésopotamie, je la marquerai juste par un petit fait. Vous savez que Sargon a été recueilli dans une corbeille sur le fleuve. Ça ne rappelle rien ?
Oui, oui.
Bon. Alors, c'était 2 millénaires avant, mais 1 millénaire et demi. Bon, il faut le savoir.
Oui, oui.
Il faut le savoir. On est dans un pays où il y a des tas de choses qui circulent et qui sont arrivées jusqu'à nous. Mais à quel point ce sont des éléments d'information historique sûrs et fondamentaux ?
Oui, non, mais l'Égypte, ça communique. Vous dites hors Mésopotamie, je veux bien, mais ce n'est pas hors Asie antérieure. L'Égypte est rattachée pour des raisons climatiques, d'ailleurs. Bien sûr.